Le dévoilement de Dieu. Novin. Le quintuple ministère d'une mère juste. Le 13 mai 2018. Pasteur Brian Kozurek. Bonjour à tous, et particulièrement à vous les mères. Comme vous le savez tous, c'est la fête des mères, et au lieu de tirer un message du sermon de frère Branham Dieu dévoilé, j'ai pensé que ce serait bien d'étudier ce que signifie d'être une mère en l'honneur de cette fête, en l'honneur de vous les mères, parmi nous et celles qui nous suivent par Internet. Bien sûr, la meilleure écriture que nous ayons concernant ce que signifie d'être une vraie mère est tirée de Proverbe 31, qui la décrit comme étant une femme vertueuse. Alors prenons cette écriture pour notre texte de ce matin. Proverbe 31.10 Qui peut trouver une femme vertueuse? Maintenant, c'est toute une question qu'il pose ici. Qui peut trouver une femme vertueuse? Vous savez, je pensais que cette écriture parlait d'une femme de vertu comme le mot anglais virtue ou en français, vertueux. Note du trad. Exprime. 1. Ayant ou faisant preuve de vertu, en particulier d'une excellente moralité, mener une vie vertueuse. 2. Possédant ou caractérisé par la chasteté, pure. Dans l'Ancien Testament, le mot traduit par vertueux en parlant de cette femme dans le livre des Proverbes, c'est le mot hébreu sheil, qui signifie valeur, force, capacité et puissance. Nous observons donc une femme, capable et forte, pas une femme si fragile qu'elle doit prendre soin d'elle-même. Cette femme, à propos de laquelle Salomon pose la question, qui peut la trouver? N'est-elle pas une petite femme efféminée? Mais est-elle une guerrière? Est-elle pleine de valeur? Ce qui signifie forte et pleine de courage. Et quand vous verrez tout ce que Salomon lui attribue, vous verrez que cette femme n'est pas une femme maladive, qui reste toute la journée à bouder et à s'apitoyer sur son sort. C'est une vraie femme qui est forte et audacieuse et prête à affronter la journée. Elle est ce que le mouvement de libération de la femme Néhémie peut que rêver. Mais elle connaît sa position et n'essaie jamais d'être l'homme. Et remarquez ce que Salomon dit d'elle. Elle a bien plus de valeur que des rubis. Et pourquoi cela? Parce qu'elle a des multiples talents. Elle peut faire tellement de choses, que si elle devait être payée pour tout ce qu'elle fait, ce serait bien plus élevé que le prix des rubis. Tel qu'il est dit. Salomon continue à décrire cette véritable mère, quand il dit au verset 11, le cœur de son mari a confiance en elle, en sorte qu'elle n'ait pas besoin du butin. En d'autres termes, l'homme qui a cette femme vertueuse à ses côtés a un mariage sécurisé. Il n'a pas à se demander si elle restera avec lui. Il sait qu'elle est fidèle et sincère. Et il lui fait confiance. Il y a de l'assurance auprès de cette femme, parce que Salomon dit, le cœur de son mari a confiance en elle, en sorte qu'elle n'ait pas besoin du butin. Ce mot butin utilisé ici signifie le produit d'un vol ou d'un pillage. En d'autres termes, il n'a pas peur qu'elle n'ait une recherche, que son propre intérêt et n'aimait le dépouille à son insu. Il n'a pas peur qu'elle dépense, 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 Néhémie laissant que peu pour les vrais besoins de la famille. Par conséquent, elle sera toujours un trésor pour lui. Une vraie compagne cherchant le bien de la famille et non le sien propre. Verset 12 Elle lui fait du bien, et non du mal à qui? Tous les jours de sa vie. En d'autres termes, elle n'agit que pour son bien et Néhémie lui fait pas du tort. Et Néhémie lui causera ni malheur ni dénuement. Elle n'a pas cette attitude égocentrique que tant de femmes ont aujourd'hui où elles pensent, qu'est-ce que j'y gagne? Non. La femme vertueuse Néhémie pense même pas en ces termes. Et en fait, ce n'est même pas dans son vocabulaire. Elle considère que son rôle est de contribuer à affermir la famille et à en faire un foyer aussi solide que possible. Maintenant, cela en soi vaut tout l'argent que les rubis pourraient acheter. D'avoir une aide semblable, qui est une véritable aide semblable. Une personne qui est là pour aider. Pas pour entraver. Une personne qui travaillera avec et non contre. Une personne qui voudra son bien à lui comme son bien à elle. Et une personne qui n'est jamais égoïste. Mais plutôt désintéressée. Et puis Salomon nous montre sa force en matière de commerce. Très elle cherche la laine et le lin et travaille volontiers avec ses mains. Elle n'engage pas d'autres personnes pour venir faire son travail pour elle. Elle est toujours active et se débrouille toute seule. Et le mot-clé dont Salomon a fait usage ici n'est pas le verbe travailler aussi important soit-il. Mais le mot-clé est volontiers. Car le mot volontiers montre qu'elle veut le faire tout comme Dieu produit en nous. À la fois le vouloir et le faire. Ainsi, elle travaille volontairement. Pas parce que son mari l'oblige à travailler, mais elle est contrainte de travailler parce que c'est sa nature. Elle s'automotive et n'a besoin d'aucune motivation extérieure. Salomon dit aussi 14, elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Alors qu'est-ce ce que cela signifie? Le navire marchand se rend là où les autres ennemis peuvent pas se rendre afin de rapporter des objets de valeur dont d'autres personnes ont besoin. Et c'est ce que fera la mère, qui est aussi une femme, vertueuse. Elle fait ses courses jusqu'à épuisement, mais pas pour elle-même, pour les autres. Maintenant, je sais que certaines d'entre vous, les jeunes filles, pourraient penser, c'est génial, je peux faire des emplettes jusqu'à épuisement et ça doit signifier que je suis une femme vertueuse. Mais attendez un instant. Ce n'est pas ce qu'il dit. Ses achats n'émis sont pas pour elle-même, mais pour ceux qui en ont besoin dans sa maison. Elle fait des emplettes pour ses enfants, ses petits-enfants et son mari, Némi pensant presque jamais à ce qu'elle peut acheter pour elle-même. Je connais une dame comme ça. Je me suis marié à elle. 15 Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et je sais que certaines d'entre vous, sœurs, sont ainsi. Et vous pensez que vous, Némi, pouvez tout simplement pas dormir. Mais ce n'est pas l'insomnie qui vous rend ainsi. C'est le fait d'être une mère vertueuse. Le Fr. James Philippe, le gendre de Fr. Collins, m'a dit que son épouse Betty, la fille de Fr. Collins est ainsi, elle est debout à 3h30 du matin. Je sais que mes femmes est comme ça aussi. Et je sais que certaines de vous, sœurs, et celles qui suivent ce sermon sont aussi ainsi. Parce que j'ai entendu vos maris me le dire. Ce n'est sont pas des insomnies. C'est votre profonde vocation. Et le fait de vous lever à 3h30 du matin est votre profonde réponse à cette profonde vocation. Car vous savez qu'il y a du travail à faire et que c'est en vous de le faire. Et vous remarquerez que la Bible Néhémie dit pas cela à propos du mari. Alors que votre esprit bouillonne de choses à faire, son esprit elle lui fait le vide et il est dans cette petite boîte où il est déconnecté. Mais Néhémie vous inquiétez pas pour ça. Il a aussi ses attributs à lui. Mais nous n'aborderons pas cela aujourd'hui, car c'est votre fête à vous les mères. Nous nous concentrons donc sur vous en tant que femme vertueuse. Et puis Salomon nous dit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle se lève donc tôt pour laver, cuisiner ou préparer un petit déjeuner ou un déjeuner pour son mari et ses enfants. Elle Néhémie se couche pas tôt mais elle se lève tôt. Et Salomon dit qu'elle Néhémie se lève pas pour son temps personnel, mais plutôt pour préparer la nourriture pour les repas du jour pour sa maison. Ensuite, Salomon nous dit à quel point elle est industrieuse et férue en affaires. 16. Elle pense à un champ. Et elle l'acquiert. Du fruit de son travail elle plante une vigne. Remarquez qu'elle connaît la valeur d'un dollar et qu'elle achète un champ non pour son profit personnel, mais parce que ce champ produira de la nourriture pour sa maison. Et puis elle-même travaille ce champ pour sa famille. Elle fait le travail elle-même. C'est Esther une femme énergique, une femme forte, une femme vertueuse. Maintenant, souvenez-vous de la semaine dernière où nous vous avons montré que votre ADN contient un message codé, et lorsque cet ADN se manifeste, il manifeste ce message codé dans votre corps. Eh bien, nous vous avons montré que seul William Branham aurait pu accomplir Malachi 4, mais je tiens à ce que vous, sœurs, sachez que seule une épouse vertueuse de Jésus-Christ, sœur dans le Seigneur, peut remplir ses attributs et ses caractéristiques d'une femme vertueuse, et vous savez si votre vie reflète cela ou pas. Salomon ajoute, 17 elle ceint de force ses reins, et elle a fermé ses bras. Maintenant, cela ne signifie pas qu'elle soulève des haltères pour muscler ses bras. Cela ne veut pas dire non plus qu'elle se ceint les reins comme on pourrait le penser. Le mot rein a été traduit du mot hébreu moten et parle de la taille ou de la partie étroite du dos. En d'autres termes, elle sait que le travail qu'elle accomplit est très pénible. Elle s'attache donc très fort pour se donner de la force et du confort dans le travail qu'elle doit accomplir. En d'autres termes, elle veille sur sa sécurité parce qu'elle a une responsabilité vis-à-vis de sa famille. Si elle se blesse, elle ne pourra plus s'en occuper car ils ont besoin qu'elle s'occupe d'eux. Et donc, et elle a fermé ses bras aussi, par tout le travail qu'elle fait. Elle ne craint pas de ne pas avoir la taille parfaite, car elle n'a pas le temps pour le narcissisme. Elle doit s'occuper de sa famille, et avec tout le travail qu'elle fait, ses bras deviennent plus forts et elle sait qu'elle a fait son choix, faire le travail et perdre ainsi sa taille parfaite au lieu de garder sa silhouette et de laisser le travail qui doit être fait n'aimer pas être fait. Et puis Salomon ajoute 18, elle sent que ce qu'elle gagne à Esther bon, sa lampe n'aimer s'éteint un point pendant la nuit. Ces deux attributs d'une femme vertueuse s'expliquent d'elle-même. Elle travaille tard le soir sur des tâches qui doivent être accomplies pour la maison et elle sait que ce qu'elle fait a de la valeur pour sa famille. Sinon elle ne les ferait pas juste pour le faire. Alors, elle sait que son temps est précieux. Salomon continue à louer la femme vertueuse en disant ensuite. 19 elle met la main à la quenouille. Et ses doigts tiennent le fuseau. En d'autres termes, elle coud, tricote et confectionne des vêtements pour sa famille. Et pas seulement pour sa famille, mais elle montre qu'elle a une bonté qui abonde dans son cœur en sorte que lorsqu'elle voit un besoin chez les autres, elle ne considère pas qu'ils ne sont pas de sa famille, ou même qu'ils peuvent être des étrangers, mais elle fait ce qu'elle peut afin de venir en aide dans toutes les situations possibles. Car la vie éternelle, c'est Esther de vivre pour les autres. Salomon ajoute, à tous les autres attributs et caractéristiques de cette femme vertueuse. Au verset 20, elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Et elle ne se soucie pas seulement de ses enfants, elle a aussi un regard sur les enfants des autres et le bien-être de toutes les personnes avec lesquelles elle entre en contact. Car cette femme vertueuse possède la vie éternelle. Ces jours-là sur le calvaire 60-09-2584 il n'était qu'un seul homme, l'homme parfait. Il a donné sa vie à lui, il vous a donné un exemple. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? 85 bon, la première chose que je veux dire, c'est que Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Sa vie a été consacrée aux autres. S'Esther parfaitement sa la vie éternelle. Quand vous dites que vous allez à l'église, et que vous faites des bonnes actions, c'est Esther bien. Mais quand vous vivez votre vie pour vous-même, Vous n'avez pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est-à-dire de vivre pour les autres. C'est-à-dire ce qu'elle a prouvé, quand elle est venue dans l'agneau de Dieu. Il vivait, et il avait la vie éternelle, parce qu'il ne vivait pas pour lui-même. Il vivait pour les autres. Et vous recevez la vie éternelle, en recevant ce jour-là, alors vous ne vivez plus pour vous-même. Vous vivez pour les autres. Et ainsi nous voyons que la femme vertueuse est celle qui a la vie éternelle. Elle ne vit pas pour elle-même, elle vit pour sa famille et pour les autres. L'agneau et la colombe 20. 5 août 60-49 La colombe et l'agneau. Pendant que vous suivez les passages des Écritures les plus remarquables, l'un d'eux auxquels je peux penser, c'est celui où Jésus dit, Père, pensez-y. Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Pensez Y Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Que faisait-il? Il donnait l'exemple. Il était l'agneau. Qu'a-t-il fait? Il avait le droit de fonder un foyer. Il était un homme. Il avait le droit de se marier. Il était un homme. Il avait le droit de bien se vêtir. Il était un homme. Cependant, il s'est sanctifié lui-même. Il y a renoncé. Il pouvait descendre les corridors de la gloire, étant un homme mûr, accompagné d'une cohorte d'anges. Assurément. Mais il s'est sanctifié lui-même. Il pouvait au moins naître sur un beau lit propre quelque part, mais naquit dans une crèche, sur un tas de fumier, dans une crèche empruntée. Il s'est sanctifié lui-même. Pourquoi? Il était l'agneau. Voyez, mes amis, nous devons nous détourner de ces religions frontalières des assemblées, de toutes ces choses, nous nous éloignons de véritables choses. Humiliez-vous. Restez humble, Seigneur. Sanctifie-moi. Et c'est ce que fait une mère vertueuse. Elle voit un besoin dans sa famille, alors elle cherche à le combler sans se soucier d'elle-même. Elle se sanctifie pour sa famille, pour ses enfants, pour les pauvres et les nécessiteux. Et elle n'a pas peur. Elle n'a peur de rien. Et Salomon dit ensuite de cette dame vertueuse, 21 Elle n'a mis, craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. En d'autres termes, alors qu'elle veille et prépare sa famille contre toutes sortes de conditions climatiques, elle n'a donc pas peur de la neige et du froid. 22 Elle se fait des couvertures. Cela signifie qu'elle fabrique elle-même ses couvre-lits et qu'elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Elle ne porte donc pas de sac en guise de vêtements, qui lui donnerait l'air d'une chanteuse hippie, mais elle s'habille avec dignité et elle connaît la valeur des tissus et la valeur de la couture. Elle crée même ses vêtements élégants et à la mode. Maintenant, au verset suivant, Salomon nous en dit un peu plus sur le mari. 23. Son mari est-il considéré aux portes? Lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Nous voyons donc que cette femme est un chef de file dans sa maison, pour ses enfants. Et elle n'est pas en reste, pour ce qui est du mariage avec le bon gars. Elle n'épouse pas n'importe qui. Elle épouse un conducteur, un homme digne, admirable et respectable en tant qu'ancien. Et le choix de son mari parle bien de sa sagesse et de son caractère. 24 Elle fait des chemises. Et les vend. Elle fabrique non seulement les choses dont sa famille a besoin, mais elle est aussi astucieuse et comprend le marché, et fait même de la vente. Car ce qu'elle peut fabriquer en surplus des besoins de sa famille, elle peut le vendre et avoir des fonds supplémentaires pour d'autres besoins. Et elle livre des ceintures, des vêtements ceinturés, aux marchands. Elle a donc un peu de marketing en gestation et elle sait comment traiter avec les commerçants. Elle sait qu'on t'acheter et qu'on n'aime pas acheter. Elle sait qu'on vendre et qu'on n'aime pas vendre. Elle cherche les bonnes affaires et connaît les marchands. Ils lui disent quand les choses se vendent pour qu'elle puisse utiliser son argent. 25. Elle est terre revêtue de force et de gloire, et elle sourit de l'avenir. 16. Terre une optimiste, pas une pessimiste. Elle attend avec impatience le lendemain, elle n'émit craint pas demain, et si cette journée lui a valu des citrons, des ennuis et des difficultés, elle en sait assez pour en faire de la limonade. Maintenant, pour ceux qui traduiront cela, cela signifie qu'elle sait comment, des situations les plus difficiles, en tirer quelque chose de bien. Car elle sait que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et puis nous voyons les caractéristiques de sa sagesse au verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et n'oubliez jamais car l'homme est terre comme les pensées de son cœur. Et, c'est terre de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, elle est terre habile dans le choix de ses mots. Et des instructions aimables sont sur sa langue. J'espère que vous écoutez. Parce que si vous avez obtenu une bonne note jusqu'à présent, mais que vous échouez à ceci, alors quoi? Vous êtes une femme presque vertueuse. Comme l'a dit le roi Agrippa à Paul, tu m'as presque persuadé d'être chrétien. Tu m'as presque persuadé. Alors il était presque chrétien. Mais un presque chrétien n'est-il toujours pas un chrétien? Et puis nous voyons les caractéristiques de sa sagesse au verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Alors, elle sait comment contrôler sa langue et elle s'assure que ses paroles sont épicées de grâce et non de condamnation. Elle cherche le bien dans tout le monde et non le mal acquis. Elle cherche à faire ressortir le meilleur de chacun et non le pire. 27. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle cherche le bien-être de son ménage et elle n'y mange pas le pain de paresse. Elle n'est pas paresseuse. Elle n'est pas oisive. Elle a quelque chose à faire presque tout le temps. 28. Ses enfants se lèvent et la disent béni. Maintenant, ce mot qui a été traduit par béni signifie aussi avoir raison et aller droit au but. Autrement dit, elle n'est pas celle qui va tourner autour du pot. Mais plutôt celle qui va faire sortir ce qui est terre dans le pot, aller droit au but, et cela peut être pris dans un sens négatif si vous êtes ce genre de personne qui cache ce qu'il y a dans le pot. Son mari aussi. Son mari dit aussi qu'elle est terre bénie, et qu'elle va droit au but, et il la loue pour cela. Ok, frère, ça veut dire que quand maman a corrigé votre enfant, qui Néhémie pourrait pas faire du mal à qui? À vos yeux? Cela signifie que vous devez la soutenir. 29. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses toutes. 30. La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. 31. Récompensez-la du fruit de son travail, et que porte ses œuvres la loue. J'ai vu cela chez ma belle-mère. Elle était une femme vertueuse et correspondait à toutes les paroles que Salomon avait écrites à son sujet. À sa mort, il y avait plus de gens qui ont assisté à ses funérailles qu'à ceux de beaucoup de prédicateurs auxquels j'ai assisté. Elle traitait tout le monde équitablement et avec amour, et même ceux qui n'aimaient menaient pas une vie convenable, elle les invitait à se mettre à table et les nourrissait. Et elle a touché la vie de tant de gens, qu'elle était vraiment une femme vertueuse. Maintenant, nous pourrions nous arrêter ici et dire que nous avons eu une merveilleuse conversation sur une mère juste. Mais ce matin, je voudrais également parler du rôle d'une mère. Maintenant, la plupart des gens n'aiment comprennent pas qu'elle estère le rôle d'une mère et n'apprécient pas, non plus, la préparation qu'il faut pour être une bonne mère. Une mère est la première personne qui modèle chaque enfant qui vient au monde. Certaines prennent leur travail au sérieux, tandis que d'autres sont des parfaites délinquantes, par rapport à la description de leur poste. Les qualifications pour une vraie mère sont supérieures aux qualifications pour être président des États-Unis. Je parle d'une vraie mère, maintenant, pas d'une de ces usines à bébés que nous voyons presque partout ces jours-ci. Mais pour être qualifié de vraie mère, vous devez être capable d'assumer à la fois de multiples rôles essentiels. Et saviez-vous qu'une véritable mère a un quintuple ministère pour ses enfants? L'apôtre Paul a dit que dans l'Église, il existe 5 dons que Dieu a donnés à l'Église. Et rappelez-vous, l'Église représente une femme. C'est-à-dire ce que frère Branham dit dans Reconnaître votre jour et son message 64-0726-M160 et l'Église, ce qui la représente. C'est-à-dire une femme? L'Église est-à-dire une femme? Spirituellement parlant. L'épouse aussi est-elle une femme, spirituellement parlant. Et dans son sermon La Seconde Venue du Seigneur en mer 17 avril 57-59, si vous voulez voir cela, regardez dans Galates 5. Vous verrez que cette femme représentait l'Église, et l'Église est-elle une femme qui est-elle mariée à Christ. Et la tablette que l'Église est-elle supposée porter est-elle mentionnée dans Galates 5. C'est-à-dire la charité, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la bienveillance et la patience. Voilà la tablette qu'on est-à-dire censé porter dans l'Église, l'amour fraternel, l'amabilité, l'amitié. Maintenant, en revenant à notre pensée qu'une mère est-à-dire un type de l'Église, nous voyons aussi que l'Église a reçu un quintuple don en sa faveur. Et donc, la mère juste a aussi reçu un quintuple don qu'elle doit dispenser à sa famille. L'apôtre Paul a parlé de ce quintuple don de Dieu, en faveur de l'Église, et a déclaré, il y a premièrement les apôtres, ensuite les prophètes, puis les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. C'est-à-dire le quintuple ministère en faveur de l'Église. Or, le but principal des mères ayant reçu un quintuple don pour sa famille est-à-dire d'amener les enfants à un certain niveau de maturité, de même que le quintuple don à l'Église est-à-dire de faire la même chose pour la famille de Dieu. L'apôtre Paul nous a dit que le rôle du quintuple ministère accomplirait exactement cela. Éphésiens 4.11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 12 Pour le perfectionnement des saints. Le mot perfectionnement signifie l'achèvement ou la maturation des saints, c'est-à-dire en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et pendant combien de temps sommes-nous censés faire cela? 13 Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Maintenant, il n'a pas dit jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité d'une foi, mais il a dit jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, parce que ce même apôtre, quelques versets plus haut, a dit qu'il n'y avait qu'une seule foi et que cette seule foi était en un seul Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. 13 Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Ainsi, vous voyez le but du quintuple don à l'Église est-à-dire d'amener l'Église à la maturité et à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Ainsi, comment deviendront-ils matures et auront-ils l'unité de la foi s'ils n'ont aucune connaissance du Fils de Dieu? Et pour la famille, la mère exprime ses 5 dons à son petit troupeau dans le même but. Pour l'unité, pour la maturité, et pour leur compréhension de ce qu'est la condition de fils. Comment vont-ils mûrir et s'unir s'ils ne savent pas en quoi consiste leur condition de fils? Par conséquent, nous voyons que la mère vertueuse et juste reçoit un quintuple don pour sa famille, et elle reçoit l'intendance de ce don. Elle aura donc à répondre de la manière dont elle utilise ce don pour sa famille, et Dieu la tiendra responsable. Par conséquent, premièrement, elle est star apôtre pour ses enfants. Maintenant, qu'est-ce qu'un apôtre? Frère Branham a dit qu'un apôtre Esther est un envoyé. Par conséquent, la mère Esther est une envoyée. Le baptême du Saint-Esprit dîme 28 septembre 58-189 et il a établi dans l'Église quoi? Dans l'Église? Dans le corps. Il a établi quoi? Premièrement, des apôtres, c'est-à-dire des missionnaires. Nous en avons un ici dans notre église maintenant. Un jeune homme qui est Esther, un ami à moi que j'appelle Kretsch. Jeffrey. C'est Esther le premier appel le plus élevé. Un missionnaire. Vous dites, un apôtre Esther un missionnaire? Absolument. Allez voir dans votre dictionnaire ce que signifie apôtre. Cela signifie un envoyé. Allez voir ce que signifie missionnaire. Un envoyé. La même chose. L'ordre le plus élevé, c'est Esther le missionnaire qui traverse les mers pour le Seigneur Jésus. Dieu ne juge pas un homme sans l'avoir d'abord averti, mer 24 juillet 63-106 et puis nous voyons que l'apôtre Esther est un homme spécial. C'est Esther quelqu'un qui met les choses en ordre. Esther un homme qui Esther envoyé de Dieu pour mettre les choses en ordre. Donc, premièrement, nous voyons qu'une mère Esther un apôtre pour ses enfants. Elle concentre toutes ses énergies sur sa mission qui Esther sa maison. Et elle Esther d'abord cette personne, qui, dans la famille, met en ordre tel que frère Branham décrit le rôle que l'apôtre doit jouer, mettre l'église en ordre. Et la mère a aussi comme premier rôle d'être apôtre pour sa famille, le premier de ses cinq rôles pour sa famille. Et ce premier rôle de la mère Esther de mettre l'ordre dans sa famille. Maintenant, elle Néhémie doit pas mettre son mari en ordre. Pas plus qu'un apôtre de l'église essaierait de mettre Jésus-Christ en ordre. Car le mari Esther le chef de la famille, tout comme Jésus-Christ Esther le chef de l'église. Mais elle doit mettre ses enfants en ordre et, par conséquent, elle Néhémie dit pas, attends que ton père soit rentré à la maison. Non. Elle assume elle-même cette responsabilité et l'accomplit. Par conséquent, remarquez que l'apôtre Esther est la personne qui met en ordre. De même que la mère. Frère Branham dit dans son sermon fils de David, aie pitié de moi mère 15 février 61-19 j'entends les gens parler de l'analphabétisme des mères du Kentucky. Là dans la partie de la contrée d'où nous venons. Là au nord. Eh bien. Elles peuvent être. Elles n'ont pas. Elles n'aiment savent peut-être pas distinguer la main droite de la main gauche. Mais qu'une de leurs filles rentre la nuit avec les cheveux tout en désordre. Toutes déshabillées. Le visage tout barbouillé de rouge à lèvres comme cela, et qu'un fumeur de cigarette à moitié ivre, au teint jaunâtre, amène sa fille au grand jour. Je vous assure que cette fille Néhémie pourra pas sortir du lit pendant 3 mois. Je vous garantis cela maintenant. Oui. Oui. Et vous parlez de l'analphabétisme. Qui est-ce? Nous avons besoin davantage de mamans de ce genre. Certainement. Certainement. Cela ramènera à la discipline. Chez nous, il y avait les 10 commandements. Ils étaient accrochés au-dessus de la porte. Une branche de noyer constituait tous les 10. Avec le bout comme cela. Et je vous assure que c'est de cela que nous avons reçu notre éducation. C'est juste. Je peux voir mon père tendre encore la main et dire, William. Je disais, mon Dieu. Je savais ce qui venait. Mais je suis heureux qu'il l'ait fait. C'est exact. Très bien. Esther le premier de ses 5 dons pour sa famille. Elle est Esther apôtre, la personne qui met les choses en ordre pour la famille. Maintenant, l'apôtre Paul a dit, premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes. Nous voyons donc en deuxième lieu, notre mère juste Esther prophète pour ses enfants. Or, un prophète Esther un révélateur de la parole de Dieu et un prédicateur de cette parole. Et une mère pieuse Esther le premier enseignant et le premier prédicateur de la Bible pour ses enfants. Le prophète Élisée m'a 2 octobre 56 et 15 chaque mère Esther un prédicateur. Assurément. Et Dieu lui donne une petite assemblée à laquelle prêcher à la maison. Le super signe 20. 29 novembre 63 55 maintenant. Nous pouvons parler ici juste une minute de ce qu'Esther un prophète. Eh bien, suivant les termes anglais, selon les termes anglais de cela, ça signifie un prédicateur. Le retour et le jubilé 22 novembre 62 57. Dites ce que Dieu met dans votre bouche. Il n'émettra rien que sa parole. Un prophète, c'est Esther quelqu'un qui annonce d'avance, tout comme celui qui prédit. C'est Esther vrai. Ainsi, il dit, je dirai ce que Dieu dit. Christ Esther le mystère de Dieu Revoldim 28 juillet 63 198 le mot, prophète signifie un révélateur de la parole divine écrite. C'est Esther comme celui qui prédit, voyez, ou un voyant. Et nous savons que la première compréhension des Écritures devrait venir de la mère, qui lit les histoires bibliques à ses petits-enfants avant même qu'une Néhémie puisse commencer à parler. Car elle a reçu la tâche d'instruire ses enfants dans la connaissance du Fils de Dieu et dans la connaissance que ses petits-enfants sont des fils de Dieu, afin de les amener à la maturité en Christ. De la même manière qu'un véritable, quintuple prophète proclamera la révélation de Jésus-Christ et amènera l'Église à la connaissance du Fils de Dieu. Le prochain des 5 dons est l'Église, selon l'apôtre Paul, Esther l'évangéliste. Or, frère Branham nous a décrit le rôle d'un évangéliste dans le sermon de Néhémie, juge pas un homme sans l'avoir d'abord averti mère. 24 juillet 6304 un évangéliste Esther un homme spécial. C'est Esther un homme qui brûle comme une boule de feu. Il entre en hâte dans une ville et prêche son message, et en sort pour aller ailleurs. Vous voyez, c'est Esther un homme spécial. Nous voyons donc que la mère reçoit un don spécial pour allumer le feu sous ses enfants, d'une manière que personne d'autre Néhémie pourrait faire. Ensuite nous avons le pasteur. C'est Esther le quatrième don à l'Église et c'est Esther aussi le quatrième don donné à la mère pour ses enfants. En tant que pasteur auprès de ses enfants, elle doit pouvoir guider ses enfants dans une relation avec leur père, céleste mais aussi leur père terrestre, et connaître et comprendre leur rôle en tant que fils et filles dans les deux cas. Ce don Esther un don spécial, car cela fait ressortir en elle la nature si attrayante, pour ses enfants qui lui permet d'utiliser tous les dons de l'esprit, la sagesse, l'amour et ainsi de suite pour répondre aux besoins de ses enfants. Elle porte le fardeau et Esther capable de supporter tous les chahuts des enfants qu'aucun homme ni aucune femme, qui n'Esther pas une mère, Néhémie pourrait. Dans son sermon, Dieu Néhémie juge pas un homme sans l'avoir, d'abord averti mère 24 juillet 63 103 mai. Vous voyez, dans l'église il y a le pasteur, et ce pasteur Esther une personne spéciale. Il Esther constitué de telle façon qu'il puisse supporter les tracasseries des gens. Ce Esther quelqu'un qui porte les fardeaux, il Esther le bœuf de l'attelage. Ce Esther un homme qui peut s'asseoir quand le un tel a quelque chose contre un tel autre, et s'asseoir avec ses deux familles, et sans prendre parti pour qui que ce soit, il les ramène à la raison et dans la douceur. Vous voyez, il y Esther un pasteur, il sait comment s'occuper des choses. Il en va de même pour une mère juste. Elle sait comment s'occuper des choses. Elle peut prendre deux petits-enfants, qui se chamaillent les faire jouer l'un avec l'autre en un court laps de temps. Finalement, le dernier don, de ses cinq dons, c'est Esther, celui de docteur ou enseignant. La mère Esther, le premier enseignant que les enfants n'auront jamais. Que ce soit pour leur enseigner la propreté, ou pour les enseigner à devenir les jeunes dames chrétiennes et de jeunes gentlemen chrétiens, maman Esther est la meilleure enseignante et utilise ce don plus que tous les autres. Frère Branham, en parlant du docteur, dit dans son sermon, Dieu n'aime et juge pas un homme sans l'avoir d'abord averti. Ma 24 juillet 6305, un docteur Esther, un homme spécial. Il se tient là sous l'onction de l'Esprit et il Esther capable de prendre la parole, de la rassembler par le Saint-Esprit, au point que ni le pasteur ni l'évangéliste ni qui que ce soit d'autre n'aime et peut lui être comparé. Ainsi, la mère juste reçoit ce don de Dieu, qui Esther celui du docteur, et, à ce titre, elle enseigne à ses enfants tout ce dont ils auront besoin pour les amener à maturité en tant que jeune dame chrétienne et jeune gentleman chrétien. Pour pouvoir enseigner ses enfants, elle doit être qualifiée pour enseigner les matières que ses enfants devront apprendre. Ainsi, elle les oriente vers l'auto-apprentissage, mais pour ce faire, elle doit avoir confiance dans son rôle de docteur plus que dans tout autre rôle qu'elle joue. Pensez simplement à toutes les matières qu'elle présente à ses enfants. D'abord comme leur petit pasteur, elle leur enseigne la théologie, l'étude de Dieu et la relation que nous entretenons avec lui en tant que notre Père. Ensuite, il y a bien sûr d'autres vertus chrétiennes qu'ils doivent apprendre. Il appartient donc à la mère de les enseigner à ses enfants comme elle le souhaite. Elle leur enseigne à se revêtir de toute l'armure de Dieu et leur enseigne à la fois ce que sont les fruits de l'esprit et ce que sont les fruits de la chair à éviter. Et elle leur enseigne comment les éviter. Susan Wesley, la mère de John Wesley, a déclaré qu'on façonne un enfant dès l'âge de 3 ans et, à cet âge, on lui aura conféré tout ce dont il aura besoin dans la vie en ce qui concerne le caractère, la justice, l'intégrité, l'humilité, la moralité, l'éthique, l'amour et les relations humaines, la courtoisie et le respect. Toutes ces matières, une mère juste les endoctrine dans son jeune enfant avant l'âge de 3 ans. Comme Moïse l'a enseigné dans Deutéronome au chapitre 6. Deutéronome 6.6-9. En particulier au verset 7 de la nouvelle version internationale. Faites-les comprendre clairement à vos enfants. Parlez-en quand vous êtes assis chez vous et quand vous marchez le long de la route, quand vous vous allongez et quand vous vous levez. Et comme nous le voyons dans la version amplifiée de la Bible 7. Et ces paroles que je vous commande aujourd'hui seront premièrement dans votre esprit, dans votre cœur, alors tu les aiguiseras et les affûteras, pour les faire pénétrer, et tu les enseigneras et les feras clairement comprendre, avec diligence, à l'esprit et au cœur de tes enfants, et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison et quand tu marcheras en chemin, et quand vous vous coucherez et quand vous vous lèverez. Et ainsi, nous voyons que pour ce faire, il devait placer des images, des écritures et toutes sortes de choses que les enfants verront de leurs yeux, et quand ils les verront de leurs yeux, cela aura une influence sur leur esprit et sur leur cœur. Maintenant, ce ne sont pas les seules matières qu'elle va leur enseigner à cet âge. Les autres matières qu'elle doit connaître, afin de les enseigner, sont les suivantes. 1. L'autodiscipline. 2. L'hygiène de base. 3. La nutrition de base. 4. Comment aimer. 5. Comment accepter l'amour. 6. Les mœurs. 7. Les faveurs sociales. 8. Comment lire. 9. La grammaire. 10. Les compétences de communication, telles que la façon d'exprimer leurs pensées par des mots, en parlant et en écrivant correctement 11. Les mathématiques de base, 12. La biologie de base, 13. La zoologie de base, 14. La botanique de base, 15. L'astronomie de base, et vous voyez que la liste peut continuer indéfiniment. Maintenant, je sais que je n'ai mis les pas tout énumérés, mais j'espère que vous comprenez le sens de ce sermon. Être une mère juste Esther, une responsabilité sacrée. C'est Esther pourquoi nous sommes tenus pour responsables du sort de nos enfants. Et quand nous voyons nos enfants grandir et servir Dieu, nous devrions savoir qu'il y a une mère, vertueuse quelque part qui instruit l'enfant selon la voie qu'il devait suivre, et quand il Esther devenu grand, il n'est mis son Esther pas détourné. Inclinons nos têtes dans un mot de prière. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, août 2019. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions sur ce sermon en anglais à briancocourec@yahoo.com ou en français à bilvanga@yahoo.fr.